Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique numéro 34 d'aujourd'hui a pour titre générique chèque, au pluriel, sans provision. Dans l'actualité économique générale, écho 1, nous apprîmes ce fameux mercredi 16 juin 2010 que Nicolas Sarkozy a tranché. Eric Woerth, excellence du régime, informa le peuple, via les micros de tous les médias, gourmands de fadaises, que la réforme était décidée. La grande réforme consiste en un report de 60 à 62 ans de l'âge légal du départ à la retraite en 2018. Je ne sais pas quel effet cela vous a fait, mais moi je me suis marré. Vous parlez d'une grande réforme. Le régime politique continue de fixer l'âge où la retraite pleine de la sécurité sociale sera payée. Moi, j'attendais une vraie réforme qui aurait dépossédé le gouvernement de ce droit et laissé aux gens le choix au vu de leur tableau de bord personnel. De plus, ce report de 2 ans n'est pas vraiment transcendant. D'autant qu'il est prévu un étalement sur 8 ans de la mise en place afin de la rendre aussi indolore que possible. En somme, voilà un traitement homéopathique à l'autre bout de la galaxie de l'existence d'une vraie réforme. L'abus du mot est évident. La montagne a accouché d'une souris. On sourit, sans jeu de mots, tellement c'était attendu d'apprendre dans la foulée que les retraites des fonctionnaires ne sont pas réformées, ce qui confirme que le régime politique qui écrase la France les considère éternellement comme irréformables. Ils continueront à toucher à la retraite un traitement en rapport avec les 6 derniers mois de leur traitement d'active. Ouf, on a eu peur pour eux. Alors, conformément à mon habitude, que vous avez certainement déjà identifié, je vais aller complètement à contre-courant de tout le monde. Un tout petit peu démagogique, mais pas plus que les autres. Tout le monde vitupère sur les privilèges des fonctionnaires, accordés par d'autres fonctionnaires, dont le régime politique est gorgé et dont les éminences grises de l'éducation nationale peuplèrent l'Assemblée nationale en 81, les fameux barbus. Eh bien, je vais aller dans le sens totalitaire jusqu'au bout. À état totalitaire, décision totalitaire. Puisque tout le monde doit être identiquement traité, traitons donc tout le monde comme les fonctionnaires. Dès lors, tout le monde roulera en première classe, comme eux. Puisque les fonctionnaires partent à la retraite sur la base des 6 derniers mois de traitement, versons à tous les retraités du privé, quels qu'ils soient, une retraite basée sur les 6 meilleurs mois de leur vie active. Puisque les fonctionnaires avancent à l'ancienneté et que leurs 6 derniers mois d'actifs sont généralement les plus hauts revenus de leur vie. L'État payera. L'État doit payer, puisque sa loi fondamentale est l'égalité et la fraternité entre tous les citoyens. L'État doit montrer l'exemple du comportement citoyen qu'il attend quotidiennement des autres, n'est-ce pas? L'État qui tolère comme normal que les élus parisiens aient une retraite exempte de cotisations sociales et d'impôts, double de celle des fonctionnaires, incongru. Alors faites vos calculs personnels. Par exemple, ma meilleure année est 1981 et mes meilleurs 6 mois consécutifs m'ont permis alors de recevoir 360 000 francs de salaire de cadre sup, soit 60 000 francs par mois. L'État doit donc faire une loi qui obligera la sécurité sociale, l'ARCO et la GIRC, cumulées, à me verser une rente de 10 000 euros par mois, de plus actualisée en 2011, c'est-à-dire de plus du double. Voilà ce qui s'appelle de la vraie justice totalitaire. L'État se débrouillera avec les montages bidons en vigueur avec les banques depuis 1985 et surtout depuis 2008. Un peu plus, un peu moins, autant que cela serve aux gens et pas seulement aux traders et autres footballeurs. Ah, que voilà enfin la vraie réforme, la grande réforme attendue. Au lieu de 693 euros mensuels, mes revenus en retraite vont atteindre un traitement de ministre actuel. Un chèque sans provision de plus ou de moins, au point où nous en sommes. Autant que nous en profitions aussi, non? Ceci posé avec un petit peu de rigolade, mais pas tant que ça. Abordons l'actualité économique, financière et codeux. Il semble que la méga commande, ainsi dénommée, de 32 Airbus A380, annoncée à fort son de cornes de brume de paquebot intercontinental et analysée dans mon précédent travail d'il y a 15 jours, n'ait jamais été réellement formalisée. La Tribune de lundi, avant-hier, 28 juin 2010, titre « Gros client d'Airbus et de Boeing ». Dubaï Aerospace reverrait ses commandes à la baisse. Avec ce régime sarkozien qui ne fonctionne qu'aux effets d'annonce, je m'en doutais un peu. Pourquoi en parle-je ici dans la partie financière? Parce que c'est bien un problème de financement. La Tribune ajoute en chapeau, en raison des difficultés financières de l'émirat de Dubaï, le holding Dubaï Aerospace Enterprise, DAE, serait en train de renégocier ses 220 commandes passées auprès d'Airbus et, donc, surtout Boeing. La crise, entre guillemets, financière du début de l'année aurait laissé des traces à Dubaï dans le secteur aéronautique notamment. L'émirat aurait décidé de recentrer ses investissements sur sa compagnie nationale Emirates et le futur aéroport international, qui devrait être le plus grand du monde, au détriment des activités de DAE. Et le poteau rose est alors dévoilé par la Tribune, sourcé sur les Échos. La méga commande par Emirates de 32 Airbus A380, annoncée de façon fracassante début juin lors du salon de Berlin, participerait en fait des négociations en cours pour transformer une partie des commandes de DAE en avions supplémentaires achetés à Boeing au prochain salon de Farnborough en juillet. C'est-à-dire dans quelques jours. On note que le principal actionnaire de DAE est aussi le président de la compagnie Emirates. Il s'agit de Sheikh Ahmed bin Zayed Al Maktoum. Je ne vous garantis pas l'accent. Encore un chèque sans provision pour Airbus? Sûrement. Écho 3, actualité économique monétaire. Je n'ai pas encore finalisé mon travail qui est lourd, car les données brutes deviennent difficiles à localiser sur la situation agrégée de l'eurosystème. Je vous prie de m'en excuser, ça viendra un peu plus tard. Je puis cependant extraire des derniers communiqués reçus de la BDF, la Banque de France, quelques données synthétisées pour vous concernant la situation. Il semble bien, en rythme annuel, que le système bancaire, entre guillemets, mais sans dire, voit ses engagements diminuer sur monnaie crédit. Les engagements monétaires des IFM françaises vis-à-vis des résidents en mai voient leur croissance maintenue mais moins forte, infléchie de moins 3,4%. L'augmentation des dépôts fléchit aussi à seulement, entre guillemets, plus 9,4% contre 11,6% avant, en rythme manuel, hein, toujours. L'érosion des instruments négociables s'approfondit à moins 16,2% affectant les prises en pension, et donc l'État, et les OPCVM monétaires à moins 15,1%. Le tout se traduit par une nouvelle baisse de la contribution française à M3, consolidée avec les 13 autres membres de l'Euroland par la BCE. Dans le même temps, une légère reprise des crédits aux sociétés non financières et aux ménages semble enrayer, mais fort peu, l'ensemble de la contraction générale de M3. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire la dernière fois, je ne considère pas cette évolution comme négative, mais comme positive pour l'économie générale, laquelle semble vouloir, de gré ou sans doute de force, échapper un peu aux banques et à leurs crédits spoliants. Mais cette évolution reste cependant préoccupante, car il va bien falloir sauter le fossé creusé par les prélèvements étrangers et étatiques comme para-étatiques sur le marché primaire des capitaux. L'endettement à l'étranger des sociétés non financières, des entreprises, risque fort de grossir et il faudra suivre la forme qu'il prendra, cet endettement, crédit ou bien investissement étranger en France. Dans les deux formules, ce sera à tous les coups sur des chèques sans provision du système oligarchique et financier tiré sur le trou sans fond de l'antimonnaie mondiale. Voilà, c'était aujourd'hui une histoire de chèques sans provision, ô combien malheureusement regrettable, mais bien réelle. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.